Donc, c'est un plaisir de pouvoir être là ce matin, de pouvoir parler de la Slovaquie, pouvoir parler de différentes choses et de justement le faire en famille avec des gens qui sont des frères et des sœurs dans le Seigneur. Donc, j'imagine, je fais un premier clic et on va peut-être passer à la première diapo. Parfait. Donc, oui. Hein? C'est une bénédiction. Puis oui, je remercie M. Aubu, je remercie M. Lapierre, puis M. Lavergne aussi qui nous ont permis de pouvoir venir ici ce matin. Et puis, dans le fond, pour faire un petit peu des présentations, on va attendre un petit instant, mais d'abord, je veux parler de quelque chose parce qu'il y en a qui connaissent JET, il y en a qui connaissent un petit peu moins. JET, c'est une mission québécoise qui, veut sensibiliser les jeunes à la mission et aussi au ministère dans, leur église locale, mais dans le fond, veut aider ces jeunes-là à pouvoir avoir un aperçu de c'est quoi. Donc, depuis 20 ans maintenant, 21 ans, à chaque été, on amène une équipe d'ados pour aller servir des missionnaires dans un pays où est-ce qu'il y a moins de chrétiens qu'au Québec. Et puis après ça, ben justement, on les encourage à servir dans leur église locale et tout ça, et à continuer d'être impliqués. Et puis à travers les années, ben à travers les 250 jeunes qui ont voyagé avec JET, aujourd'hui, on retrouve des pasteurs au Québec, on retrouve des femmes de pasteurs, on retrouve différentes personnes impliquées. Tout ça, dont, bon oui, il y a entre autres moi, j'ai fait partie des petits premiers en 2002 qui ont été dans la jungle au Brésil, aider des traducteurs de la Bible pendant 4 semaines, puis dans le fond, à leur dire, le travail physique qu'on a fait, le travail manuel qu'on a fait là-bas, ben leur a aidé à avancer d'un an la traduction de la Bible. Donc, c'était à bon escient, puis c'était en même temps un encouragement comme de fait pour eux autres. Donc, mais dans les dernières années, c'est arrivé à plus qu'une occasion qu'il y avait des adultes qui nous disaient « Oui, c'est beau les ados, hein, mais est-ce que vous pensez à faire de quoi avec les adultes? » Puis on s'est dit « Mais oui, c'est une bonne idée. » Et puis, on a quelque chose d'organisé pour le printemps prochain. Le printemps prochain, dans le fond, à la fin du mois de février, début mars, on organise un projet pour aller en Israël. Un projet en Israël pour un voyage d'évangélisation. Donc, un voyage de 8 jours. Là-dessus, il va y avoir 6 jours d'évangélisation. Évangélisation face à face, d'aborder des gens. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui font du tourisme religieux, des Français, plein de gens de différentes nationalités. Et puis, on a découvert un moyen vraiment facile pour pouvoir parler avec eux de l'Évangile, même s'il y a une barrière de langue, il y a des moyens là-bas qui sont disponibles pour pouvoir le faire aussi. Donc, on vous invite à pouvoir partager ce projet-là particulier pour les 20 ans et plus, qui va justement se dérouler 2 groupes différents à la fin, dans le fond, au printemps, fin hiver, début printemps. Vous allez peut-être me dire, c'est encore l'hiver en mars, je voulais être encourageant, mais donc c'est ça. Donc, vous allez pouvoir aller là-bas, pouvoir justement faire ce voyage-là. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, sur la table dans l'entrée, j'ai des dépliants qui vont parler de tous les détails, pour en parler, en jaser un petit peu plus. Donc, oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui nous connaissent, quelques-uns qui prient pour nous depuis longtemps. Je vais faire un petit peu de présentation, parce que d'un autre côté, ça fait quand même, la dernière fois qu'on était passé, c'était en 2015, au printemps. Donc, ça fait 8 ans de ça. Donc, il y a moi, Philippe, effectivement. Il y a Isabelle, mon épouse. Et après ça, ben, dans l'ordre assis, on a Ézéchiel qui a 12 ans, celui qui n'a pas de lunettes. On a Lauriane qui a 8 ans. On a Samuel qui a 14 ans. Puis on a Rosalie qui a 10 ans. Donc, Isabelle et moi, ben, les deux, on a grandi dans la région de Québec. Les deux, on est bénis de venir des familles chrétiennes. Nos parents sont chrétiens. Et puis, dans le fond, les deux, on a eu aussi la bénédiction de pouvoir grandir dans le ministère de la jeunesse. Dans mon cas, ben, je suis rentré dans le ministère de la jeunesse un petit peu sur le tard, à Québec, quand j'étais en secondaire 3, où est-ce que Jeff et Tonda Street, les directeurs de la mission JET, étaient impliqués dans l'église locale pour justement, après être venu des États-Unis avec 15 à 20 ans d'expérience dans le ministère de la jeunesse, ils avaient senti l'appel de Dieu venir comme missionnaire au Québec, donner un coup de main, aider les églises avec implanter un groupe de jeunes, renforcer un groupe de jeunes, tout ça. Mais honnêtement, les 2-3 années que j'ai passées avec eux autres, en tant que jeune, en tant qu'ado, ont eu un énorme, énorme impact au niveau de ma foi, au niveau de ma connaissance de la parole de Dieu, au niveau de ça. Puis honnêtement, si j'avais pas les avoir côtoyés, je pense pas que j'aurais même ouvert, ou j'aurais même pas eu l'idée, ou que le Seigneur aurait pu aussi facilement me rejoindre pour la mission. Donc, ils ont eu un énorme impact. Puis Isabelle et moi, par la suite, dans le fond, quand on servait à notre église, à Chauveau, dans le fond, on a eu l'occasion aussi de travailler avec eux autres sur les lieux, pour le dire, à Chauveau en tant que tel, avec la jeunesse pendant 5 ans. Puis encore là, ça nous a aidé beaucoup dans notre désir qu'on avait de travailler avec la jeunesse, mais j'y arrive un petit peu dans un instant, mais avec le désir qu'on avait, ou le sentiment qu'on avait que Dieu voulait encore un petit peu plus. Donc, de notre part. Donc, c'est ça. En fond, nous, on a toujours eu, moi et Isabelle, une passion pour aider notre église locale, mais pour, dans le fond, partager avec les ados une passion pour Dieu. Partager, dans le fond, que, hey, mais d'être ado, c'est pas juste une salle d'attente pour être un adulte. Que déjà, en tant qu'ado, Dieu s'intéresse à moi. Que déjà, je peux faire de quoi pour Dieu en étant un ado. C'est pas juste, ah, oh, dans le futur, c'est pas juste loin, puis c'est pas juste, ah, oh, mais Dieu s'intéresse juste aux adultes. Non. Mais tu sais, pendant ce temps-là qu'on a travaillé dans notre église locale, pendant ce temps-là qu'on travaillait avec Jeff et Tonda, puis qu'on réfléchissait, puis on sentait que le Seigneur voulait, on faisait ce qui était bien, on faisait ce que Dieu voulait, mais on avait une impression qu'il y avait un petit quelque chose de plus que Dieu voulait, puis c'est là, dans le fond, que Dieu a changé notre passion en la mettant comme une version mise à jour. Ou est-ce que Dieu a changé ça en aider les églises locales, aider les endroits, les églises déjà en place à pouvoir avoir justement un ministère envers leurs ados, à pouvoir transmettre une passion. Puis on avait le désir de pouvoir partager des ressources, partager justement partager tout ce qui était, tout ce qu'on avait pu apprendre, tout ce que ça nous avait béni, pouvoir apprendre avec d'autres. Puis on s'est dit, bon, on avait vraiment à cœur d'aller même en dehors du Québec. On savait qu'il y avait une centaine de pays qui étaient moins évangélisés que le Québec. Fait qu'on a mis ça devant Dieu, puis on était comme, mais Seigneur, on est prêt à aller n'importe où. Fait que Seigneur, lui, il nous a dit, ben, il a dit rien. Fait que on s'est dit, OK, Seigneur, on va prendre pas ça comme un non, on va prendre pas ça comme un oui, on va prendre ça comme un attends. Donc, on a attendu, puis on s'est attendu au Seigneur. Mais dans le fond, de fil en aiguille, d'année en année, ça nous a amené justement dans notre nouvelle terre d'accueil, dans notre nouveau pays, où est-ce que justement on veut aider les églises à établir un ministère de la jeunesse qui est solide, un ministère de la jeunesse qui est biblique dans leur église locale. Donc oui, ça nous a amené en Slovaquie, il y a déjà presque 8 ans, ça va faire 8 ans au mois d'août. Et puis, bon, en dehors de ceux qui nous connaissent ou de ceux qui nous suivent, la Slovaquie en tant que pays n'est pas très très connue. Bon, il y en a qui vont connaître des Slovaques, qu'on va un petit peu dans le domaine, dans le monde du sport. Il y en a qui n'aiment pas Boston, mais à Boston, il y a Zdeno Chara. À Montréal, chez les Canadiens, on a Juraj Slafkovski. On a aussi plusieurs autres noms des hockeyeurs qui ont été repêchés cette année ou qui sont. Tu vois, oui, il y en a qui vont me dire qu'ils ont dit les Stachny. Oui, ceux qui ont été de cette génération-là, qui ont connu ces 3 gars qui venaient justement de la Slovaquie. Ici, connu très bien, j'imagine. On a aussi un nom qui va sans aucun doute éveiller quelque chose. On a Jan Gazdik. Dans le fond, Jan Gazdik qui a débarré l'église ici, qui a démarré l'église de Chauveau, qui est notre église locale, venait de la Slovaquie, d'un petit village qui s'appelait Banska Štiavnica, qui est justement, nous aujourd'hui, ben, le Seigneur nous a amené à faire le tour de la boucle et puis à boucler la boucle puis à aller là-bas. Donc, mais c'est ça, la Slovaquie, bon, on a quand même plusieurs personnalités qu'on connaît, mais la Slovaquie, pas beaucoup connue. Je l'ai mis ici en orange sur une carte de l'Europe. C'est un petit pays, justement, qui fait voisin avec l'Ukraine à droite. Dans le haut, c'est la Pologne, où est-ce qu'il y a les Jutras. Après ça, on a la République tchèque, qui est juste un petit peu à gauche. Je vais vous les pointer pour bien faire. On a la République tchèque ici, on a l'Autriche, et puis en bas, on a la Hongrie. Donc, dans le fond, la Slovaquie, c'est un tout petit pays qui est perdu au milieu de l'Europe. Puis, dans le fond, juste pour vous donner une idée un peu de grandeur, c'est à peu près grand comme 2 fois la Gaspésie. Donc, pas immense, pas gigantesque. Mais, j'aime bien le dire, comme on le dit au Québec, je ne sais pas si on le dit à Trois-Rivières aussi, mais dans les petits pots, les meilleurs ont gain. Donc, la Slovaquie est vraiment un bonbon pour l'œil, vraiment magnifique par tous ces paysages, par tous ces panoramas. Et puis, entre autres, on retrouve des montagnes magnifiques à la frontière avec la Pologne dans le nord. Les Tatras, des montagnes qui ont 2000 à 2500 mètres d'altitude, avec des lacs de montagne à presque 1 km, 1,5 km d'altitude. Fait que vraiment, là, des paysages à couper le souffle qui nous montrent la puissance de notre Créateur, qui nous montrent la beauté de sa création, avec justement les petits vallons, les vallées, les rivières et tout et tout. Donc, c'est un endroit qui est vraiment, vraiment incroyablement beau, que ce soit en été, que ce soit en hiver. Dans le fond, c'est un pays qui est très, très beau. Mais, bon, Slovaquie, Europe, on parle de des siècles et des siècles d'histoire. J'ai déjà rencontré un garage qui avait 300 ans. Donc, puis la toiture avait été refaite il y a 100 ans. Bref. Mais, on parle de petites structures, on retrouve aussi des châteaux. Dans le fond, la Slovaquie est accueille, mais dans le fond, on se trouve à être un pays qui contient plus de 200 châteaux. Certains sont dans un état où est-ce qu'on voit qu'il y a déjà eu un château, mais il n'y a plus rien. Dans d'autres cas, on parle dans des châteaux qui ont été maintenus en très, très bon état ou qui sont restés en très, très bon état. Et puis, ben, entre autres, on a le château qu'on voit ici présentement, qui est tout près de la capitale, dans le fond, dans le sud-ouest du pays. Et puis, dans le fond, qui s'appelle le château de Devine. Donc, pour ceux qui aiment la géographie, on a ici... Oups, pardonnez-moi, mauvais bouton. Je retourne en arrière. Pour ceux qui aiment la géographie, on a ici le Danube. Et puis ici, juste là, on a l'Autriche. Et puis, il y a un tout petit bras de rivière ici qui est à peu près, juste un petit peu plus large que la route ici. Ou à peu près large comme une des rivières de Trois-Rivières. Mais il y a à peu près de l'eau jusqu'à la taille. Mais, dans le fond, bon, vous voyez dans l'état que le château est présentement. Ça se trouve être la faute de Napoléon Bonaparte en 1808-1809. Qui est arrivé là. Mais dans son avance de quelques années, dans le fond, le château a aussi une valeur particulière dans des événements plus récents. C'est des événements que même beaucoup de vous autres ont eu, ont vécu, du moins ont entendu parler des nouvelles. Parce que, en réalité, je ne me tromperai pas de bouton cette fois-ci, on n'avancera pas, juste ici, c'était le rideau de fer. Hein? L'Autriche, la Tchécoslovaquie, et l'Autriche, maintenant c'est la Slovaquie depuis 1993, mais le rideau de fer était juste ici, hein, limitait. Et puis, il y a énormément de gens qui ont essayé de traverser d'un côté à l'autre, qui ont été fusillés sur le coup, qui ont été amenés dans des camps de travail en Sibérie à cause du communisme. Dans le fond, le communisme qui, oui, avait qui était difficile pour bien des gens qui essayaient de sortir, mais qui était aussi une certaine difficulté pour les chrétiens. Dans le fond, les chrétiens, un chrétien qui était engagé, ben, on pouvait facilement, de un, c'était une impossibilité d'aller à l'université, bon, tu vois, mais en tant que chrétien, si j'étais ouvert avec ma foi, c'était facile, j'avais des grosses chances de perdre ma job, de peut-être jamais ravoir une job, parce que, tu sais, dans le communisme, il fallait pas sortir, il fallait pas être contre le parti, il fallait pas trop dépasser des reins, tout ça, donc, tu sais, distribuer des bibles, tout ça, c'était très, très, c'était mal vu, et tout ça, genre, on a des frères et des sœurs qu'on connaît là-bas qui... cachait des Bibles à l'intérieur d'un deuxième mur, d'un double mur, puis le plus jeune de la famille était celui qui pouvait comme descendre dans le mur pour aller chercher des Bibles pour les ressortir quand c'était le temps de les distribuer. Sur notre propriété, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on habite en Slovaquie, il y avait une église clandestine qui se réunissait, donc des gens qui arrivent peut-être aux une heure d'intervalle, une demi-heure, une heure d'intervalle, deux, trois fois. Ah, après ça, on a le culte en faisant pas trop de bruit, chantant pas trop fort, puis après ça, on repart, chacun à intervalle. Donc, c'était toute une réalité de leur vie qui fait qu'aujourd'hui, les gens vivent beaucoup leur foi de façon intérieure puis indépendante, puis dans le fond, pour eux-mêmes. Donc, c'est pas quelque chose que les Slovaques sont beaucoup, beaucoup ouverts à jaser. Donc, mais, dans le fond, oui, ils ont passé 55 ans sous le communisme, puis dans le fond, on avait juste ici, justement, une toute petite place qui se trouvait à mettre côté limite, côté frontière. Mais oui, c'est un pays où est-ce qu'il y a beaucoup de catholicisme. On parle de catholicisme vraiment tradition, pas tant une question de cœur, mais une question d'habitude. Mais dans le fond, on parle d'à peu près 20 fois moins de chrétiens qu'au Québec. Puis les chrétiens sont vus comme une secte. Mais étrangement, une secte à qui on n'a pas peur de confier ses enfants pour qu'ils leur enseignent l'anglais. Je suis quand même un petit peu étrange. Je ne suis pas sûr que ça marcherait même aussi bien au Québec, mais bon, là-bas, ça marche. Mais c'est ça. La Slovaquie contient un petit peu plus que 5 millions de personnes, donc un petit peu moins que le Québec, sur deux fois la Gaspésie. Et puis, dans le fond, c'est les seuls gens au monde qui parlent le slovaque. Dans le fond, une langue qui est, heureusement, est du même alphabet que nous, parce que c'est pas toutes les langues slaves, comme le russe, l'ukrainien et tout ça, qui ont le même alphabet que nous. Donc, on est reconnaissant pour ça. Mais je vous donne un petit aperçu de quoi ça ressemble avec la phrase qu'on a là. Slovensky je velmi zaujímavý jazyk s tou rovnakou abecedou, ako my v Québecu. Len trošku komplikovanejšie. Oui, hein? Parfait, merci beaucoup. Hein? Comme vous pouvez voir, c'est une langue qui est extrêmement phonétique, une fois que vous connaissez l'alphabet. Mais ça, c'est une langue qui est très, très, très phonétique. Puis, tu sais, même on peut voir, s'il y en a qui sont un petit peu perspicaces, ben vous avez pu voir que, complico-vanéchien, ça ressemble un peu à compliqué. Ben c'est exactement ce que ça veut dire. Au milieu, on a A, B, C, D, ben c'est alphabet. A, B, C, D. Hein? Mais en slovaque, par exemple, ceux qui ont déjà pris un cours de grec vont me suivre ici, mais en slovaque, il y a plusieurs déclinaisons. Donc, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas fait de cours de grec. Donc, ça veut dire que si je prends le mot « maman », par exemple, que si je dis que c'est « à maman », je suis devant maman, je suis avec maman, et je ne me rappelle plus quel est l'exemple rapidement, là, mais il y a cinq exemples possibles. Maman va se terminer d'une façon différente dans ces cinq cas-là. Donc, dépendant de quelle préposition j'utilise, je vais faire un peu mon prof de français, dépendant de quelle préposition j'utilise, ben maman va s'accorder avec la préposition. Et puis, maman, en règle générale, on y va pas au pluriel, mais avec les mots au pluriel, encore là, on a un set de pluriel qui est différent dans chaque cas. C'est pas juste « je mets un S ». Si j'ai dit « avec maman » ou si j'ai dit « avec mon frère » ou « avec mes frères », ça ne sera pas le même pluriel que je dis « j'ai un frère, j'ai des frères ». Ça va s'écrire encore différemment. Et bon, mais le slovaque, il y a du masculin, il y a du féminin, il y a du neutre. Donc, « des portes », c'est toujours pluriel, c'est toujours neutre, c'est jamais masculin ou féminin. Puis, ben, en slovaque, on dit « une lit » puis on dit « un table ». C'est comme switché. Donc, ça a le même alphabet. Youpi, on est content. Donc, mais c'est ça. Dans le fond, depuis notre passage ici la dernière fois, en 2014, on a servi à l'église de Trenčín. Puis, on a commencé là-bas avec trois ados de la même famille. Et puis, aujourd'hui, ils sont rendus avec un groupe de jeunes à travers le ministère de camp, tout ça. Ils sont rendus avec un groupe de jeunes de 25 à 30 jeunes. Puis maintenant, avec tout ce qu'on a pu partager avec eux, le travail qu'on a fait, l'équipe qu'on a montée en équipe avec eux autres, en partenariat avec eux, bien, en fond, ils peuvent suivre ces jeunes-là à l'année longue, puis vraiment travailler sur leur croissance spirituelle. Mais à la fin 2021, bien, on a vu, on avait pu leur donner tout ce qu'on était capable, tout ce qu'eux étaient prêts à accepter. Il y avait une bonne équipe, et on s'est dit, bien, allez-y, vous êtes capables. Nous autres, on va aider une église qui a plus de besoins, une église qui part d'un petit peu plus loin. Donc, on a visité plusieurs églises, on a pu rencontrer plusieurs personnes vraiment intéressantes pendant l'hiver, pendant le printemps. Puis, dans le fond, le Seigneur nous a dirigés vers une petite église qui est à une quinzaine de minutes de chez nous, qui est à Stara Tura. Il y en a qui vont être curieux, ou du moins, je satisfais la curiosité de ceux qui n'ont pas encore posé la question. Ça veut dire « vieille promenade », Stara Tura. Mais on va laisser le charme de la langue, Stara Tura, c'est cute. Donc, le Seigneur nous a dirigés vers là-bas. Dans le fond, c'est une église avec une moyenne d'âge quand même assez élevée, mais on a beaucoup de gens, justement, avec un art de grande sagesse, pour le dire de cette façon-là, vous comprenez ce que je veux dire, de grande sagesse, et on a des jeunes familles. Donc, il y a un gros potentiel pour le ministère de la jeunesse, pour justement, dans les années qui s'en viennent, et puis on veut vraiment leur donner un coup de main pour pouvoir monter ça, pour avoir de quoi être prêt pour justement les jeunes, puis aller chercher des jeunes, des amis des jeunes, et etc., etc. Puis vraiment avoir un impact pour l'Évangile. Présentement, dans le fond, depuis septembre, on travaille avec deux paires de familles, Andrei et Yanchi. Entre autres, on va pouvoir voir Andrei qui est juste ici. Puis ça, bien, présentement, c'est notre groupe de jeunes, plus, dans le fond, nos deux plus vieux, Samuel et Ezekiel. On a Nicolas, on a Slavik et on a Lubka. Slavik et Lubka qui sont deux Ukrainiens qui sont arrivés justement avec la crise depuis à peu près un an qu'ils sont assemblés. Puis oui, le gars là avec un manque de cheveux, c'est moi, pour ceux qui n'étaient pas sûrs. Donc, ça ressemble à notre groupe de jeunes pour l'instant. Puis on remercie le Seigneur pour ce qu'on a déjà. Puis on prie que le Seigneur multiplie, ajoute à ce groupe-là. Mais donc, puis on veut justement que cette église locale-là, on prie qu'elle puisse avoir un impact, on prie qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse justement se mettre à la mission que ça leur donne. C'est une église qui recherche un pasteur depuis 10 ans. Fait que vous pouvez prier en particulier pour ça, pour eux autres. Dans le fond, on vous invite à prier aussi pour qu'on puisse avoir une dame qui se rajouterait à l'équipe de leader jeunesse. Présentement, on a Isabelle qui fait un super bon travail, qui se rencontre un peu à mi-chemin, entre autres avec Lubka. Dans le fond, Isabelle part du français vers le slovaque, puis Lubka part de l'ukrainien vers le slovaque. Chacune, c'est pas sa langue maternelle, mais ils s'encouragent, puis ils avancent là-dessus. Mais dans le fond, priez entre autres pour ça aussi, pour une dame qui se joindrait à nous autres. Et puis, dans le fond, moi et Isabelle, on a toujours, depuis qu'on a commencé à être missionnaire, depuis presque 10 ans, toujours fonctionné sur la prière. Ça a toujours été pour nous la priorité. La prière, on sait que c'est quelque chose de puissant. On sait que le Seigneur travaille dans les cœurs à travers la prière, dans nos cœurs, dans le cœur des autres personnes, puis que lui est la meilleure personne pour diriger tout ce qu'il peut faire. Puis, Isabelle, moi, on le sait, on se l'avoue, puis c'est clair là-dessus, on sait qu'on est bien ordinaire. On est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, des chrétiens qui veulent obéir à Dieu, mais on sait que sans Dieu, sans son Saint-Esprit, sans tout ce que Dieu peut nous donner, justement, on n'est pas capable de faire grand-chose. Puis qu'il n'y a pas grand-chose de bon qui va sortir de nous autres si Dieu n'est pas en train de travailler à travers nous autres. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir les prières du plus grand possible nombre de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a été bien heureux, bien bénis d'avoir tous les gens qui priaient pour nous ici. Puis les 800 personnes qui prient pour nous à chaque semaine, on est bénis d'avoir une équipe de 100 à 120 personnes chaque journée de la semaine qui prient pour nous autres. Mais c'est pour ça qu'on a lancé le défi en 2015. Puis je veux leur lancer ce matin un défi de 1 sur 7. Priez pour nous une journée par semaine. Parce que on veut que le Seigneur soit à l'œuvre dans notre église, dans notre ministère, dans nos vies à nous autres, en Slovaquie. Puis à travers la prière, on sait que c'est un super bon moyen que ça puisse arriver. Donc, puis honnêtement, c'est super facile, justement. C'est de prier pour ces requêtes-là, prier pour ça, prier pour les requêtes que vous avez dans les lettres de nouvelles, dans les courriels que moi j'envoie à nos partenaires de prière à chaque semaine, règle générale, puis justement d'être impliqué là-dessus, puis vous allez justement avec une équipe de presque qui s'approche de 1000 personnes qui prient pour nous à chaque semaine, tranquillement, pas vite. Donc, pour aider dans ça, bien, sur la table, vous avez entre autres un dépliant qui parle un petit peu plus de nous, Isabelle, notre arrière-plan, j'ai pas eu le temps de tout dire un matin, bien évidemment. Et puis, dans le fond, des clients qui parlent du voyage de l'été prochain, de l'équipe de Jet à l'île de Malte. Et vous avez aussi notre carte de prière. Carte de prière qui est là pour vous autres. Il y en a bien assez pour que vous en preniez comme vous en avez besoin. Et puis, je vous invite à la mettre à un endroit où est-ce que vous êtes souvent. Donc, comme j'aime bien dire, s'il y en a qui se rappellent de ce que j'ai dit il y a 8 ans, je vais être surpris, mais je vais leur dire parce que j'aime trop ça. Donc, si vous passez souvent devant le frigo, c'est une bonne idée de mettre sur le frigo. Si vous êtes plus souvent dans le frigo ou dans le garde-manger, peut-être une bonne idée de la mettre là. Mais si vous êtes souvent dans votre Bible, mettez-la dans votre Bible, bien sûr. Mais c'est ça, c'est là pour vous. Après ça, bon, on a aussi 2 pads avec un endroit pour s'inscrire, avec votre nom, avec votre courriel, puis avec journée de la semaine. Puis, règle générale, quand on n'est pas au Québec extrêmement occupé, j'ai le temps d'envoyer des nouvelles à chaque semaine. Et puis, donc, on s'efforce aussi de le faire, mais justement pour avoir des requêtes fraîches, du matériel frais pour prier, puis savoir comment on va, qu'est-ce qui se passe avec nous autres. Donc, puis c'est ça, vous pourrez poser des questions petites, grandes et moyennes, que ce soit après l'église ou pendant le dîner, ça va nous faire extrêmement plaisir, moi, les enfants, Isabelle, de vous répondre. Et on va passer à ce moment-ci un temps dans la parole, parce que on sait que c'est extrêmement important et que c'est ça, c'est vital. Donc, j'avance, et puis on va voir ce matin, vous pouvez tourner vous-même dans 1 Jean 2,6, parce que c'est tout le temps le fun d'entendre les feuilles de Bible, les pages de Bible tourner, et puis ça nous aide à pouvoir aussi. Ça, des fois, les versions différentes peuvent nous aider, nous accrocher avec un élément particulier. Donc, on va aller voir 1 Jean 2,6 ce matin. Donc, 1 Jean 2,6. Et puis, justement, ce matin, on va s'arrêter sur Jésus, le témoin, le missionnaire, parce que bien, dans la vie, on est des témoins, nous. Il y en a même certains de vous autres qui vont peut-être devenir missionnaire, que c'est ça que le Seigneur veut pour eux autres. Donc, 1 Jean 2,6, ce matin. « Celui qui dit qu'il demeure en lui, » on parle de Jésus, « demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Hein? » Donc, « celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme Jésus a marché lui-même. » Donc, c'est le verset duquel on part ce matin. Donc, si on regarde les grands missionnaires du siècle dernier et des siècles passés, ben, on peut mentionner bon Paul. Il y en a beaucoup que le nom William Carey va dire quelque chose, ou Hudson Taylor, ou soit Jim et Elizabeth Elliot. Un que chez nous on aime bien, qu'un de mes gars aime énormément, c'est Bruce Olson. On parle des missionnaires, des gens qui ont été à quelque part, qui ont été envoyés, qui ont été à quelque part pour parler de l'Évangile. Évidemment, si on pense aux meilleurs, aux plus grands missionnaires, on a une belle réponse d'école du dimanche, c'est Jésus. Parce que Jésus est venu sur la terre, oui, pour pouvoir payer pour nos péchés, mais il est venu aussi pour parler du royaume. Donc Jésus, c'était le plus grand exemple de missionnaire qu'on peut avoir. Donc, je me suis dit dans cette optique-là qu'on pourrait regarder la vie de Jésus, regarder des éléments de la vie de Jésus qui pourraient nous aider, nous, à être des meilleurs témoins, à être des meilleurs missionnaires. Si jamais votre église, une église, était un jour pour vous envoyer pour la cause de l'Évangile à quelque part d'autre. Mais aussi pour, dans votre présent, être des témoins que Dieu, à la manière dont Dieu veut que vous soyez des témoins à la manière dont Jésus a été un témoin. Donc, on peut regarder premier élément. Premier élément, c'est Jésus puis le confort. Hein, j'ai regardé un petit peu Jésus dans sa vie, du départ jusqu'à la fin, puis j'ai regardé qu'est-ce qui caractérisait, une des choses qui caractérisait la vie de Jésus, qui ne caractérisait pas. Je pense qu'on peut facilement dire que Jésus n'a jamais vécu dans le luxe. Hein, Jésus n'a jamais vécu dans le confort. Et bon, si on regarde même déjà au départ, en venant sur la terre, c'était une méchante dégringolade de comment c'était pour Jésus au ciel. Hein? Je pense qu'on est tous d'accord que c'était pas mal différent. Puis si on lit, on peut lire entre autres dans Philippiens 2:7, ben ça nous dit que Jésus a choisi de laisser de côté une part de ce qui lui revenait en venant parmi les hommes. Dans le fond, il a décidé de laisser de côté l'utilisation d'une partie de ses capacités divines pour en venir sur la terre. Encore là, ça note pas vraiment encore là du confort. Si on regarde même juste contexte, on est la famille de Jésus, Joseph, Marie. Ben, quand on recroise des textes, quand on regarde avec le texte de Lévitique, entre autres, Lévitique 12, 7, 8, qui parle de l'offrande qui va avec la circoncision, on peut voir que, avec le texte biblique du Nouveau Testament, des Évangiles, on peut voir que Joseph et Marie ont amené la plus petite offrande qui était permissible d'amener. Donc, Jésus était dans une famille qui était pauvre ou qui était modeste, disons-le de cette façon-là. Si on continue à regarder, dans le fond, la période du ministère de Jésus ne faisait pas exception non plus à un peu ce mode d'opération-là ou cette réalité-là. Dans le fond, on peut lire Jésus dire dans Matthieu 8, 20, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Hein? » Ce que Jésus voulait dire par là, c'est que, écoute, il se promenait, il allait d'un endroit à l'autre, mais il n'y avait pas un endroit à lui, où il n'y avait pas un endroit où, tu sais, sa petite maison, son petit quelque chose, ou son petit campeur. Tu sais, c'était comme, c'était la bonne franquette, puis il restait où est-ce qu'il pouvait. Puis, tu sais, on regarde le ministère de Jésus encore là. Jésus a prêché dans un bateau emprunté. Il a multiplié la nourriture qui avait été donnée. Il est monté sur un âne qui était emprunté. Il a même été enterré dans une tombe qui était empruntée. Donc, Jésus, on peut voir encore là, tu sais, c'est pas une question d'abondance ou de grand confort ou de tout ça. Puis, Jésus et les disciples, ils ont vécu très humblement. On lit aussi, tu sais, ils vivaient de ce que des femmes fidèles qui les accompagnaient pouvaient pourvoir pour eux. Donc, mais le confort, c'est pas juste physique. Le confort, il y a aussi tout un autre côté au confort. Dans le fond, Jésus ne cherchait pas à être confortable, il ne recherchait pas à être confortable dans ses relations avec les gens non plus. Hein, pendant son ministère, à cause de ce qu'il disait, entre autres, surtout, il y a plusieurs personnes qui ont douté de lui. Il y a des personnes qui l'ont opposé, qui se sont opposées à lui. Il y a des personnes qui ont essayé de le prendre en défaut ou de le coincer. Puis Jésus, il continuait même si les gens, ça ne les mettait pas à l'aise, puis même si lui, techniquement, aurait pu ne pas être à l'aise avec ce qui se passait. Mais Jésus continuait à faire ce qu'il savait avoir à faire, puis il continuait de le faire, non, sans chercher à choquer les gens, sans faire exprès pour déranger, mais sans prendre les gens avec des pincettes non plus. Ce qu'il faisait, il le faisait avec amour, mais aussi avec vérité. Hein? Puis oui, sa patience a souvent été mise à l'épreuve par les foules ou par les disciples, mais encore là, il continuait à faire. Puis dans le jardin, on peut le voir lutter. Hein? Je pense qu'on a tous déjà lu ce texte-là plus qu'une fois. On le voit lutter, mais quand même choisir de faire ce que Dieu voulait, qui incluait de souffrir, qui incluait encore de ne pas avoir de confort. Donc, petit principe pour nous ce matin, un disciple de Jésus cherche l'œuvre de Dieu en priorité, pas le confort. Hein? Puis dans 2 Timothée 2:4, c'est le verset où est-ce que Paul parle à Timothée puis il lui dit qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie quand il va combattre. Encore là, qu'il montre côté confort, ou ça, qu'est-ce qu'on dit. Donc, si on regarde le résumé, ça, Jésus n'a pas eu beaucoup de confort, il n'a pas eu beaucoup de facilité, il a eu beaucoup d'opposition, puis il est mort injustement par-dessus le marché. Donc, mais oui, dans tout ça, comme on voyait, Jésus a continué de suivre la mission de Dieu. Puis il n'a jamais mis ça de côté, son focus est resté tout le temps sur la chose qui était la plus importante. Puis, Jésus, bon, il avait ce qu'il avait besoin, comme un peu les premiers chrétiens de l'Église primitive avaient ce qu'ils avaient besoin, mais tout ce qui était d'extra, bon, on voit par entre autres l'Église primitive, bien, tout ce qui était d'extra, il leur partageait, tout ce qui était d'extra, il l'utilisait pour Dieu, et puis, bien, ça lui a comme bien fonctionné aussi pour rejoindre beaucoup de monde, selon les textes des Actes. Mais c'est un autre quelque chose sur le côté. Mais oui, en observant Jésus puis les textes bibliques, on peut conclure le principe qu'on voyait derrière moi. Un disciple de Jésus cherche l'œuvre de Dieu en priorité, pas le confort. Hein? Parce qu'aujourd'hui, la publicité, les rabais, les médias sociaux et entre autres, ben ils nous font comme ils montrent ah mais le confort, il y a juste ça de vrai. Le confort, c'est la chose à poursuivre. Il faudrait pas que tu sois inconfortable. Puis si tu peux être un petit peu plus confortable, vas-y. Si ça coûte de l'argent ou si ça coûte ci ou si ça a tel prix que ah mais j'ai ça de moins mais je suis confortable, vas-y. Tu le mérites. Fais-le pour toi. Mais bon, le confort. C'est un petit peu comme la richesse. Je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas arriver à un moment et dire « Ah, oh, mais je suis confortable » parce qu'il va y avoir un autre niveau de confort qui va venir après. Parce que « Ah, oh, mais la température n'est peut-être pas tout à fait parfaite. » Puis « Ah, oh, mais, oh, mais ce divan-là, il y a une petite couture qui est dérangeante à ce coin-là où il y a un petit, la bourre est rendue écrasée ou tout ça. » Il va toujours avoir un petit peu plus. Puis, si je suis tout le temps, si je suis occupé, préoccupé à rechercher le confort, c'est clair, net et précis que je ne peux pas poursuivre la mission que Dieu m'a laissé dans sa parole. Parce que si je recherche mon confort ou si je m'arrête à ce que les gens ne se voient pas inconfortables autour de moi, je ne vais pas parler de l'Évangile à des gens autour de moi. On va pas se leurrer, on va pas se faire d'accroire. Si mon confort est ma priorité, si mon argent, mon temps, mes ressources, ma vie sont impliqués, sont investis dans le confort, ben l'Évangile, il va prendre le bord. Parce que ça pourrait me rendre inconfortable, ça pourrait rendre les gens inconfortables. Bon. Et ben encore moins, si on est fixé sur le confort, encore moins est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont être ouverts à aller ailleurs parler de l'Évangile parce qu'il y a une autre langue à apprendre. Hey, je vais être loin de mes proches. Je vais pas faire un pléonasme, mais je vais être loin de mes proches, ou un paradoxe, mais je vais être loin des gens que j'aime, je vais être loin de ça, où ils vont avoir telle difficulté, etc., etc. Mais faut faire attention pour ne pas tomber dans ce piège bien rembourré là. Parce que avant qu'on me lapide, là, avant que quelqu'un décide que je suis en train de dire quelque chose qui a tellement pas rapport puis que j'exagère, Dieu n'est pas contre qu'on ait des loisirs. Non. Dieu n'est pas contre le fait que je prenne du temps puis que je relaxe. Non. Puis mon intention n'est pas de faire sentir tout le monde ici coupable d'avoir des loisirs ou de faire croire à tout le monde ici que, mais ce qu'il faut faire, bibliquement parlant, là, c'est de vivre un cheveu par-dessus le niveau de la pauvreté ou il faut vivre un cheveu par-dessus la misère, sinon c'est pas spirituel. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais je veux, par exemple, qu'on se pose une question, honnêtement, avec beaucoup d'ouverture. Puis la question, c'est la suivante. C'est est-ce que je gère mes finances? Est-ce que je gère mon temps? Est-ce que je gère mes relations avec une priorité sur l'Évangile ou une priorité sur le confort? Dans le fond, quand on regarde mon argent, quand on regarde la façon que j'investis mon argent, est-ce que c'est sur des choses que la parole de Dieu, est-ce que c'est des priorités bibliques? Bon, pour voir ma famille, oui. Je ne suis pas en train de dire, mais arrêtez de voir votre famille parce qu'il faut que ça soit aussi sur l'Évangile. Non, ça fait aussi partie de ça. Mais est-ce que justement, est-ce qu'en dehors des responsabilités de base, est-ce que mes finances, on voit plus d'investissement de mes finances sur le confort ou est-ce qu'on voit plus d'investissement de mes finances sur le côté spirituel, sur l'Évangile. Encore là, mon temps aussi. Est-ce que mon temps il est investi en particulier ou surtout pour mon confort, mes loisirs, en majorité, ou est-ce qu'il est investi pour l'Évangile? C'est une question qu'il faut se poser. Puis mes relations encore là. Est-ce que mes relations, j'essaie de garder comme le statu quo, puis d'être confortable, puis que la personne soit confortable? Ou est-ce qu'avec la sagesse, l'amour de Dieu, avec le conseil du Saint-Esprit, est-ce que je mets une priorité sur l'Évangile là-dessus, dans mes relations? Ça, c'est pas évident. Honnêtement, c'est une question qui est tough à se poser nous-mêmes, mais qu'on doit se poser. Parce que, comme on disait, un disciple de Jésus cherche l'œuvre de Dieu en premier, pas le confort. Donc, si on avance, notre deuxième point ce matin, Jésus et les gens. Bon, Jésus, lui, sa zone de confort, c'était de faire la volonté de Dieu. Hein, on pourrait le dire comme ça. Puis c'est pourquoi la majorité du temps, Jésus a été vers les gens. Jésus, il est allé vers les différentes personnes, puis la majorité du temps, des gens qui étaient pas mal différents de lui. Des gens avec qui, humainement, il aurait très bien pu ne pas être confortable. Et si on regarde, on fait un petit tour d'horizon rapide là, dans les textes bibliques. On voit Jésus avec, entre autres, les disciples immatures. On voit Jésus avec des malades en tout genre, entre autres des démoniaques puis des lépreux. On peut voir Jésus avec des gens qui étaient socialement rejetés. On peut voir Jésus avec des gens qui avaient un passé trouble ou un présent trouble. On voit Jésus avec des gens dans le deuil, bon, Jésus avec des gens dans la joie, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, des gens qui avaient beaucoup d'éducation, des gens qui étaient peu religieux ou des gens qui se croyaient incroyablement, épouvantablement religieux. Puis avec des enfants aussi. Donc, de tout, de tout et de tout. Hein, plus souvent qu'autrement, c'est Jésus qui est allé là-bas, qui est allé les voir. Jésus n'était pas comme « Ah, oh, venez me voir! » Il n'envoyait pas les disciples venir « Ah, oh, mais venez voir Jésus à Nazareth, grosse invitation, puis venez écouter, tout ça. » Tu sais, mais Jésus était allé vers ces gens-là qui avaient besoin de l'Évangile. Souvent, ben, dans notre vie, la gêne puis l'inconfort nous empêchent de partir des conversations avec du monde, de parler de trucs spirituels, de ça, mais parce que ces gens-là sont un peu différents de nous autres, parce que mais je ne fit pas vraiment avec ce genre de gens-là, ou je suis ci ou ça. Mais honnêtement, Jésus aurait pu jouer la carte de la différence super facilement, parce que Jésus était ô combien différent des humains sur la terre. Hein, Jésus aurait pu dire, écoute, hey, moi je suis saint, puis les autres sont tellement différents, écoute, je ne peux pas vraiment m'approcher trop, je ne peux pas m'impliquer trop avec eux autres, parce que ils vont pas me comprendre, on ne sera pas connectés et tout ça. Mais ça ne l'a pas arrêté Jésus. Hein? Mais il y avait une mission. Hein? Fait qu'il a passé par-dessus ces choses-là. Il est allé intentionnellement vers ces gens-là. Puis ça a commencé, oui, en venant sur la terre. Mais ça l'a continué en allant justement à leur rencontre, en se déplaçant en Judée, en Galilée, à différents endroits pour aller où est-ce que les gens étaient. Donc, un principe qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'un disciple de Jésus cherche à aller vers les gens. Là, j'ai mis deux versets qui sont hyper, hyper connus. Puis j'ai mis A. Je pense que s'il y avait eu plus que A pour dire que c'est au début que j'aurais pu mettre, je l'aurais mis. Dans les deux cas, ces versets-là nous parlent d'aller. Hein? Nous parlent d'aller, nous parlent d'une action, nous parlent de faire de quoi. Puis c'est clair, comme Jésus, on a à aller vers les gens, on a à avoir de l'initiative. On ne peut pas juste attendre d'être en réactif. Hein, ce n'est pas ce que Jésus nous demande, d'être juste réactif. Mais est-ce que Dieu, aujourd'hui, veut encore que des chrétiens du Québec aillent dans... Il voulait dans ce temps-là que des chrétiens aillent dans leur Judée, dans leur Samarie, dans leur Jérusalem, qui aillent juste aux extrémités de la terre. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Ce n'est pas que Jésus veut qu'on aille dans Galilée, en Judée, à Jérusalem, puis en Samarie, tout ça, puis jusqu'aux... De la même façon, mais Jésus veut qu'on aille, nous, les Québécois, les chrétiens, veut qu'on soit des exemples, qu'on soit des témoins dans notre milieu, notre Jérusalem, près de chez nous. Il veut qu'on soit des témoins dans le voisinage, hein, la Judée, des témoins dans la Samarie, ben c'est chez les gens qu'on n'aime pas. Hein, ça représente ça, la Samarie, pour les Juifs, des gens qui n'aimaient pas, des gens qui n'auraient pas touché avec un bâton même. Mais oui, Dieu veut que des Québécois aillent pour l'Évangile au Québec, au Canada, à l'endroit que vous n'aimez pas, chez les gens que vous n'aimez pas, puis jusqu'aux extrémités de la terre, c'est encore vrai aujourd'hui. Hein, on a été institués avec une mission d'une importance capitale et éternelle. Puis chacun de nous, présentement, chacun de vous est dans un voisinage. Chacun de vous est dans un job, dans un travail, dans une classe d'école, dans une école. Puis peut-être que vous êtes la seule présence chrétienne là-bas, entre autres. Peut-être que vous êtes la seule présence chrétienne que... Les gens qui sont avec vous, Michel, Robert, Denise, je ne sais pas, Ghislaine, vous êtes la seule personne chrétienne qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Et votre mission que Dieu vous donne, c'est de leur parler de l'Évangile. Donc, on va y revenir aussi dans un instant plus précisément, mais dans le fond, ça c'est une réalité. Et il y a aussi une réalité qui, selon les sondages, nous dit que les gens ont besoin d'entendre parler de l'Évangile de 6 à 7 fois avant de prendre une décision. La majorité des gens, ça prend 6 à 7 fois d'entendre parler de l'Évangile avant de prendre une décision. Donc, on a besoin de plusieurs chrétiens qui vont parler de l'Évangile. Puis Dieu va placer les situations. Hein? On lit dans la parole, Paul, il a semé, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Hein? Ça prend plusieurs personnes, mais il faut que moi je le fasse. Hein, ma job à moi, c'est de moi le faire. Donc, c'est ça. Les gens qui nous entourent au quotidien n'auront peut-être pas d'autres témoignages chrétiens, ont absolument besoin du témoignage chrétien qu'on peut leur apporter. Puis de cette façon-là, en étant impliqué pour l'évangile, en allant vers les gens, bien, on va glorifier Dieu aux yeux des hommes, on va être obéissant à la base. Hein? On est appelé à être une église qui est à l'attaque, pas une église qui est en défensive. Donc, notre principe qu'on avait là, un disciple de Jésus cherche à aller vers les gens. Mais pas juste aller vers les gens, puis avec une Bible leur taper sur la tête. Parce que ce n'est pas la façon que Jésus travaillait non plus. Hein? Je sais, il y en a qui sont Tupperware, pourquoi? Pourquoi Tupperware? Vous allez voir, dans un instant, ce ne sera pas long. On y arrive. Ce n'est pas une présentation Tupperware déguisée, là. Non, inquiétez-vous pas. Mais c'est ça. Donc, Jésus allait vers les gens pour leur communiquer l'Évangile. Jésus allait vers les gens pour leur communiquer l'Évangile. Hein, que ce soit avec les foules, avec les individus, Jésus avait le désir de communiquer au sujet de l'Évangile. Là, au sujet du royaume de Dieu, il cherchait à leur annoncer des réalités spirituelles d'une façon terrestre pour qu'ils les comprennent, pour que ça colle dans leur coco. Hein? Jésus, il a utilisé, oui, les paraboles pour pouvoir parler aux gens autour de lui, pour les mettre au défi de penser à l'aspect spirituel de la vie. Puis, en regardant Jésus, là, on peut voir que Jésus n'avait pas un modèle d'évangélisation à l'emporte-pièce. C'était pas 1, 2, 3, 4, 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5 là, 1, 2, 3, 4, 5 à la troisième place. Jésus, que ce soit avec Nicodème, avec plein d'autres personnages, on peut en nommer tout ça, on peut observer, puis Jésus n'utilisait pas la même approche. Jésus approchait cette personne-là basée sur qui la personne elle était, comment la personne elle était, comment il pouvait mieux la rejoindre, cette personne-là. Bon, oui, c'est sûr que Jésus savait des choses sur ces gens-là qu'on ne connaît pas, nous, mais en un petit peu de temps, on peut quand même en découvrir beaucoup sur les gens, ce qui peut nous aider à mieux témoigner. Bon, c'est un petit point, une petite parenthèse que je ne fais pas d'habitude puis qui m'est venu en tête. Mais juste au cas où quelqu'un dirait « Ah, mais Jésus, il connaissait tout, lui. » Moi, je ne peux pas. Juste ça, petite incartade. Donc, mais ça, Jésus cherchait à bien communiquer. Donc, Jésus personnalisait l'emballage de son message en rapport à son interlocuteur. Puis c'est là qu'on a notre Tupperware. En fond, Tupperware se vante de nous aider à bien faire fitter les trucs, puis que les trucs, ça fit, qu'on maximise l'espace, puis que ça rentre juste bien dans le trou du garde-manger ou du frigo. Le contenu reste le même. Hein? Puis nous, là, on a l'Évangile. L'Évangile, on va le comparer à une portion de pâté chinois. Hein? Pâté chinois, je ne fais pas une grosse spiritualisation de ça, que la viande, c'est ça, les dindes, c'est ça, les patates, c'est ça. Non, on ne se rend pas là. Mais on a ça. C'est l'Évangile qu'on veut apporter aux gens. Mais on veut l'apporter dans un contenant qui va fitter dans leur vie, hein, dans le trou qu'ils ont dans leur cœur, la place pour Dieu. On veut l'apporter avec une approche, on veut l'apporter d'une façon qui va toucher les gens, que ça va fitter, que ça va rentrer, puis que ça va avoir un impact, que ça va coller dans leur vie. Hein, je vous donne un, j'aime bien donner des exemples, j'aime les histoires. J'ai pas le temps d'en raconter beaucoup ici, mais bon, ni ailleurs. Bref, mais dans le fond, j'ai à cœur de pouvoir parler du Seigneur à bien des gens. J'ai un ramoneur qui vient chez nous parce qu'on chauffe au bois. J'ai un ramoneur qui vient chez nous, il vient chez nous deux fois par année. Je suis là la veille, puis je me casse la tête au printemps. Je suis comme, comment je pourrais parler du Seigneur? Qu'est-ce qui pourrait bien ouvrir la conversation? Tout ça. Je me dis, écoute, le gars, il a les mains toutes noires. Il touche sa facture en papier, il y a du noir dessus. Il s'essuie ses vêtements, ça laisse du noir. Quand il est venu, j'ai dit, hey, cette réalité-là, tout ce que tu touches qui devient sale à cause de ton travail, ça me fait penser à ce que la parole de Dieu a dit. On est des pécheurs, puis même si on essaie de faire des bonnes affaires, le péché vient salir ça, un peu comme la suie qui salit sur tes mains, puis ça continue à présenter l'Évangile. Une autre histoire, puis ça colle avec lui, il va le revoir à chaque jour. Hey, ça t'achète. Hey, c'est comme le péché, même quand j'essaie de faire bien, c'est ça. Une autre histoire que j'aime énormément, c'est une histoire de pneus d'hiver. C'est quoi, pneus d'hiver? J'avais amené Isabelle dans un petit chalet, full cute, soit fin de semaine d'amoureux. Puis, c'est un chemin forestier. Je dis, écoute, moi, je m'en vais, j'ai une belle petite Honda Odyssey, des bons pneus d'hiver. Ça va y aller, ça va marcher, on va y aller, on va se rendre. Non, j'ai fait 100 mètres, puis je n'arrivais plus à y aller. On se rendait pas, oui, je sais, merci, c'est toujours agréable. Vous pouvez rire de moi, je ris de moi-même. Donc, oui, effectivement, j'étais pas correct, mais... La voisine, c'est un Airbnb, la voisine, elle a son. La propriétaire avait son voisin qui a un Jeep, puis il descend, il vient me chercher. Puis il nous monte là-bas, puis écoute, lui, ça y va avec son Jeep, son 4x4, bien sûr. Puis là, le soir, je suis là, puis je réfléchis, puis je t'en prie. Seigneur, ce monsieur Daniel-là, je l'ai vu, je viens de voir 10 minutes de temps. Je vais le revoir demain matin 10 minutes, parce qu'il était assez gentil pour nous redescendre dans notre van le même matin. Comment je pourrais lui parler? Comment je peux lui parler de l'Évangile? Puis j'ai pas beaucoup de temps, je le connais pas bien. puis j'aurais jamais d'autres toilettes. Fait que là, je dis, le matin, je suis dans le truck. Moi, Isabelle, on est dans le truck en arrière, puis on se descend avec lui, puis je dis, mais, vous savez, ce qui nous est arrivé hier soir, ça me fait penser à la Bible. Ça me fait penser à quelque chose que Dieu dit, parce que Jésus dit qu'il était le seul chemin, la seule façon de venir au Père, la seule façon, c'est par le sang de Jésus. Puis, c'est un peu comme nous hier, c'est comme les bonnes œuvres dans la vie. Nous autres, on avait nos bons pneus d'hiver, puis on pensait que ça allait marcher, puis hey, on va y aller avec ce qu'on a, tout ça. Mais non, ça nous prenait un 4x4. C'est la seule façon de se rendre, comme la seule façon de se rendre au ciel, c'est par Jésus. Mais ça prend 5 minutes, ça prend peut-être 10 minutes, 15 minutes de réflexion pour maximiser ces opportunités pour l'Évangile, pour faire une bonne job de ce que je suis supposé de faire, pouvoir parler à Serge de quelque chose qui colle dans sa vie avec le golf, pouvoir parler à Marlène de qu'est-ce qui fit dans sa vie avec la cuisine, avec de quoi qui a rapport à l'Évangile, pour que ça colle, pour pas nécessairement que j'ai juste l'air de répéter un message tout fait, non. Bref. Avant de partir trop loin, mais on peut voir aussi dans Corinthiens 9, 20, 22, hein, Paul avait cette attitude-là aussi. Hein? Paul, il voulait se faire tout à tous pour en gagner quelques-uns. Hein? Il y avait une passion pour ces gens-là, il y avait même une passion assez forte pour les Juifs qui auraient été prêts à échanger son salut pour qu'eux autres soient rejoints pour l'Évangile, qu'eux autres croient en Dieu. Est-ce qu'on a une passion pour les pécheurs qui est un petit peu de tout ça, un petit peu de la passion que Paul avait? Je ne répondrai pas à la question. Je le souhaite, je veux l'avoir. Je souhaite ça pour chacun de nous autres. Mais oui, on veut arriver avec l'Évangile dans un plat Tupperware qui fit dans la vie des gens. Mais pas changer le contenu. C'est pas notre job. Notre job, c'est pas de toucher au contenu. La recette est déjà parfaite. Donc, mais oui, c'est la partie que Dieu nous a laissée de parler de l'Évangile. Hein? Donc, un disciple de Jésus cherche à maximiser les opportunités pour l'Évangile. Puis, dans le fond, on a différentes choses. Hein? On dit que la nature parle d'un créateur. On est un beau chant. Puis on a les cieux proclament. Hein? Mais oui, ça proclame ça, mais ça ne proclame pas l'Évangile. Hein? Le plan du salut, je ne peux pas comprendre, apprendre le plan du salut en regardant un arbre. Je ne peux pas comprendre le plan du salut quand quelqu'un me montre l'amour de Dieu. Uniquement, ça ne peut pas fonctionner. Dieu a demandé aux chrétiens de parler, d'ouvrir la bouche, puis de parler du plan de l'Évangile. C'est pour ça que j'aime bien l'expression « témoigner, utiliser des mots si nécessaire », mais je ne l'aime pas non plus en même temps. Parce que, justement, je peux montrer l'amour de Dieu, oui, c'est vrai. Mais je vais amener personne au salut si je n'articule pas le plan du salut, si je n'articule pas les vérités bibliques qu'on voit dans Romains, qu'on voit ailleurs. Donc, c'est pas juste si non plus. Hein? L'Évangile, chaque personne en a besoin. Chaque personne, il y a des personnes ici. Puis chaque personne, une fois qu'on sort les portes d'ici, 99,9% ou 98% des gens en ont besoin. Donc, notre job à nous, c'est d'en parler. Puis à la manière de Jésus, on veut être intentionnel, on veut être préparé. En priant, en se laissant guider par le Saint-Esprit. Puis on veut être un thermostat. On ne veut pas juste montrer comme un thermomètre la température spirituelle de où est-ce qu'on est, mais on veut être un thermostat. Puis avec le Saint-Esprit, savoir quand est-ce qu'on est supposé la monter, parce qu'on ne veut pas tout le temps la crinquer dans le piton, puis savoir quand est-ce que c'est le temps de descendre un petit peu. Mais vraiment être intentionnel, puis être là-dessus. Donc, on n'est pas là pour choquer, non. On n'est pas là pour tanner les gens, pour les déranger. Bien, déranger jusqu'à un certain point, oui, parce que l'Évangile est dérangeant. Mais c'est pour leur bien éternel. Donc, en résumé, ce matin, on a vu la présentation, on a vu les trois principes par rapport aussi à être un disciple, à être un témoin pour Dieu. Hein? Que l'œuvre de Dieu soit notre priorité pour le confort, d'aller vers les gens, de maximiser les opportunités pour l'Évangile. Puis je vais vous laisser sur deux pensées en tant que telles. Je vais vous laisser sur une première pensée qui, dans le fond, est celle de une que mon père m'a confiée il y a 20 ans. Dans le fond, il y a 20 ans, j'avais 17 ans. Je parlais avec mon père, on s'en allait en auto, puis je disais, père, Je trouve ça pas facile de parler d'Évangile. Je trouve ça gênant. Puis, tu sais, il y a du monde qui l'ont donc, l'affaire. Hein? Ils disent bonjour, comment ça va? Puis, le plan de l'Évangile, il dirait en train de sortir. Il y a des gens comme ça. Là. Je sais pas, vous pensez sûrement à quelqu'un, vous autres. Là? Vous avez quelqu'un en tête, vous êtes comme, hey, oui, cette personne-là. Moi, je disais à mon père, j'étais comme, il y a des gens qui ont un don spirituel pour l'évangélisation. Il dit, moi, je pourrais pas juste être impliqué à l'Église, faire ma petite affaire, puis prier pour ces gens-là. Puis, j'aurais fait ce que j'étais supposé faire. Mon père m'a dit quelque chose qui était très, très inspiré sur le moment. Puis il m'a dit, l'Évangile, pour certains, c'est une facilité, mais pour chacun de nous, c'est une responsabilité. Hein? L'Évangile, pour certaines personnes, c'est une facilité, mais pour chacun de nous, c'est une responsabilité. Il m'a dit, oui, OK, t'es pas confortable, t'es pas à l'aise. C'est la vie, il va falloir que tu fasses avec, ça ne change rien à ce que Dieu te demande. Hein? Puis, plus que j'en parle, plus que ça va devenir facile. Moins ça va être difficile de le faire aussi. Hein? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Plus souvent je fais de quoi, moins ça devient difficile. Bien, plus souvent je vais parler de l'Évangile, moins ça va être difficile d'en parler. Donc, deuxième pensée pour ce matin. On va finir là-dessus. Avec l'histoire, dans l'histoire de Jacob, dans Genèse 28, 20 à 21. Jacob, il part de la maison, parce qu'il y a des problèmes avec son frère Ésaü, ils sont en chicane. Puis, il fait une promesse à Dieu. Hein? Il promet à Dieu que si Dieu pourvoit sa nourriture, pourvoit son vêtement, pourvoit la paix, un retour à la maison en paix, l'Éternel sera son Dieu. Puis, je veux juste m'arrêter un instant sur l'Éternel sera son Dieu, parce que dans notre monde chrétien, ça sent bien quétaine, quasiment, de dire l'Éternel sera mon Dieu. On perd la réalité, la compréhension de qu'est-ce que c'est. Hein? Être mon Dieu, l'Éternel va être mon Dieu, ou l'Éternel allait être le Dieu de Jacob. Ça veut dire que Dieu, c'est le boss dans ma vie. Dieu, c'est le chef. Dieu est en position 1, 2, 3 dans ma vie. Là. Hein? Dieu, c'est lui qui dirige. Donc, si on regarde avec Jacob, Jacob dit, OK, si Dieu, tu me donnes ces trois affaires-là, tu vas être la personne qui va être mon Dieu. Tu vas être la personne à qui je donne carte blanche, puis la personne qui décide dans ma vie. On va faire un petit exercice ce matin. On va faire un petit sondage à main levée. Il y en a qui me voient venir avec mes grands sabots. Correct, c'est bien beau. Donc, à main levée, ce matin, qui a ici assez à manger? Moi. Petit bedon, oui, effectivement, on a déjà assez à manger. J'en manque pas. OK. Qui, ce matin, a plus qu'assez pour se vêtir? Effectivement, je pense que chacun de nous, au moins pour deux semaines, assez de vêtements. Si notre tendre épouse ou si notre époux a fait le lavage, on a même des fois pour plus longtemps que deux semaines de linge d'avance. Donc, puis qui peut sortir le matin de chez eux en étant en paix, en n'étant pas mis en danger juste en mettant le pied en dehors de chez eux? Ouais, OK. Donc, si je regarde ce que Jacob a fait, puis qui était comme, « Oh, mais Dieu, si tu me donnes la nourriture, si tu me donnes le vêtement, si tu me donnes la paix, c'est toi le boss, c'est toi qui décides de tout, qui est mon Dieu. » On a pas mal l'abondance, nous autres aussi, puis on devrait être capable de laisser Dieu être Dieu, de laisser Dieu régner comme souverain suprême, allons-y de pléonasme et rajoutons un truc, de laisser régner Dieu dans notre vie surtout. Hein? T'sais, alors, c'est un peu la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'on attend de plus pour lui obéir, pour s'investir dans sa mission d'être un témoin, d'être un missionnaire, ou d'être un missionnaire, avec notre vie, avec notre portefeuille, avec notre temps, avec autre chose. Fait que juste vous inviter, à comme Ésaïe, puis nous inviter chacun de nous, moi inclus, comme Ésaïe, à pouvoir être prêt à dire, me voici, envoie-moi, peu importe où est-ce que ça sera. Hein? C'est moi qui ajoute le dernier bout, là. Mais me voici, envoie-moi, je vais juste y aller, si tu le dis. Donc là-dessus, on va prier, on termine. Donc Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas avec juste deviner des trucs ou juste s'imaginer comment ça peut être, Seigneur, mais tu nous laisses des preuves, tu nous laisses des images, des histoires claires, nettes et précises pour qu'on sache comment agir. Il nous reste juste à le faire dans bien des cas. Donc, je te prie, Seigneur, de toucher nos cœurs, de toucher nos pensées pour que, Seigneur, on puisse le plus possible s'efforcer justement de faire les choses que tu t'attends de nous, qu'on puisse te glorifier par la façon qu'on agit. Amen.